Bonjour, aujourd'hui 15 août 1944, il y a près de 60 ans, le débarquement en Provence.
Le 15 août dernier, j'ai débarqué en Provence, à la tête de plusieurs divisions venant d'Italie ou d'Afrique du Nord. Ce n'était pas seulement l'armée d'Afrique, comme souvent je l'entends appeler ici. C'était une belle armée française.
Ans d'histoire. Dans la nuit du 14 au 15 août 1944, une flotte de 2000 bâtiments de guerre arrive tout feu éteint au large des plages de Saint-Tropez, Sainte-Maxime, Cavalaire et des îles du Levant. À leur bord, les soldats du général américain Patch attendent le déclenchement d'une des opérations les plus importantes de la Deuxième Guerre mondiale, le débarquement en Provence. Parmi eux, quelques soldats sont plus impatients que d'autres. Ils rêvent depuis 4 ans de libérer leur pays occupé par l'armée allemande. Alors que 2 mois plus tôt, les Français n'étaient qu'une poignée à participer au débarquement en Normandie, les 15 et 16 août 1944, c'est toute une armée française qui allait débarquer sur des plages qui, cette année-là, ont vu arriver des touristes bien particuliers. Parmi eux, des Marocains, des Algériens et des pieds noirs de l'armée d'Afrique qui, en ce mois d'août 1944, étaient aussi émus que leur chef, le général Delattre.
J'ai le très grand honneur d'être le chef de l'armée française sous le commandement éclairé du général américain Patch à débarquer le 16 août en Provence. Que je vous exprime d'abord très simplement combien émouvant a été pour nous tous l'instant où, quittant le bateau qui nous avait amené sans encombre des rives italiennes de l'Adriatique, nous avons foulé de nouveau le sol de la patrie retrouvée.
François Broche, bonjour.
Bonjour.
C'était le général Delattre quelques jours après son débarquement en Provence, une opération à laquelle vous consacrez tout un chapitre dans le dernier volume de votre histoire de l'armée française sous l'occupation. Alors là, il s'agit bien sûr en 44 de la libération de la France, commencée déjà en Normandie le 6 juin 44, et qui va s'accélérer avec ce débarquement en Provence dont nous allons parler avec vous. Mais c'est un débarquement dont on parle toujours beaucoup moins que du débarquement en Normandie. Pourquoi ?
Parce que lorsque les quatre alliés de la coalition anti-allemande ont pris la décision à Téhéran en 1943 d'ouvrir un front en Europe, ils ont décidé tout de suite que l'opération principale aurait lieu en Normandie et qu'elle serait complétée par une opération secondaire en Provence et que les deux forces alliées débarquant l'une en Normandie et l'autre en Provence feraient ensuite leur jonction. Donc il y a une sorte, non pas de péché originel, mais disons de vice originel, qui fait que l'opération de Provence a moins d'écho, peut-être moins de résonance dans l'imaginaire national que celle de Normandie, qui est la première grande opération libératrice.
Les deux étant, il faut le rappeler, très liés, parce qu'il est évident qu'après le débarquement dans le nord de la France, en Normandie, celui de Provence allait permettre de prendre en tenaille l'armée allemande qui se trouvait dans l'ouest et dans le sud-ouest et l'obliger à partir. C'était ça l'objectif, en fait.
La stratégie est absolument liée entre les deux. Elles sont inséparables. Et je crois que c'est un peu, effectivement, le souvenir de l'opération de Provence est sans doute plus estompé. C'est bien injuste parce que s'il y a un débarquement auquel les armées françaises ont participé très activement et très efficacement, c'est bien celui de Provence, alors que elles n'ont pas participé aux opérations de Normandie à la suite d'une décision américaine d'évincer de Gaulle de cette opération Normandie.
Alors cette armée française qui débarque en Provence, c'est l'armée du général Delattre, c'est une armée très composite qui a été formée en Afrique. Alors on y trouve vraiment un peu de tout. Il y a des Français libres de la première heure, il y a aussi beaucoup d'Algériens, de Marocains, des tirailleurs ou des tabors marocains, et des pieds noirs aussi, beaucoup de pieds noirs. C'est ce qu'on appelle l'armée d'Afrique aussi.
C'est l'armée d'Afrique, c'est la vieille armée d'Afrique et s'est amalgamée avec ce qu'on appelait les forces françaises libres et qui a été rejointe par de nombreux évadés de France par l'Espagne et qui est rejointe également par de nombreux volontaires sur place qui se sont ralliés à partir de novembre 42, à partir du débarquement allié en Afrique du Nord. Le noyau central est évidemment l'armée d'Afrique. Et il revient le mérite revient au général Juin d'avoir réalisé l'amalgame avec les forces françaises libres. C'est lui le premier qui a réalisé cet amalgame, qui est un énorme chantier, qui est un grand travail. Et Juin va emmener ce corps expéditionnaire en Italie, cette armée en Italie. En fait, à Alger, dès la fin de 1943, on décide la formation de deux armées. L'une, ce sera le corps expéditionnaire de Juin, qui va être dirigé sur l'Italie, et l'autre est confiée, la formation de la deuxième armée est confiée à Delattre, sur une base à la fois de volontaires locaux, de ce qui restait de l'armée d'Afrique qui n'avait pas été envoyée en Italie, et des évadés de France. Et cette deuxième armée était destinée à intervenir directement en France.
Alors ça, en France, on le sait bien, François Broche, on se doute bien qu'il va y avoir débarquement dans le sud de la France à partir de l'Afrique, et c'est ce qui inquiète, bien entendu, quelques membres du gouvernement de Vichy et des collaborateurs, comme Philippe Henriot. Écoutez-le brocarder justement cette armée d'Afrique en mars 1944.
Je voudrais donner un avis à vous, messieurs, qui attendez les libérateurs. Regardez bien ce qui se passe là-bas. Car en arrivant, les libérateurs ont trouvé deux catégories de gens en Afrique du Nord. Et ce serait la même chose en arrivant ici. Les adversaires et les salauds. Et ils ont mis les salauds à la porte avant même d'exécuter les adversaires.
Philippe Henriot est allemand. Philippe Henriot est allemand.
Alors c'était Pierre Dac, évidemment, à la BBC, se moquant de Philippe Henriot, que l'on a entendu, qui d'ailleurs sera exécuté avant le débarquement en Provence, hein, il sera exécuté par la résistance à Paris le 28 juin 44. Alors, à cette époque, le régime de Vichy, évidemment, est sur le point de disparaître avec les collaborateurs. En revanche, il faut rappeler, vous le rappelez dans votre livre, François Broche, la résistance intérieure en France a joué un grand rôle. Les alliés comptaient beaucoup sur elle avant le débarquement en Provence.
La résistance a déjà joué un grand rôle en Normandie, en facilitant beaucoup le travail des alliés, et par le renseignement, par l'identification des bases, des batteries côtières, a fait un énorme travail en Normandie qui sera reconnu ensuite par le général Eisenhower. En Provence, le rôle sera encore plus grand, parce que la résistance, d'abord, deux mois ont passé, la résistance est encore plus forte, elle est armée, elle est décidée, elle constitue une vraie force militaire dont la vocation est de rejoindre immédiatement après le débarquement et de rejoindre les forces françaises débarquées.
Et harceler, bien sûr, les Allemands.
Elle connaît le terrain, et elle va jouer notamment dans les prises de Marseille, de Toulon, elle va jouer un rôle essentiel.
Et c'est à elle que s'adressent des messages codés très amusants qu'on retrouve dans votre livre, comme tous les messages codés de l'époque, hein, juste à la veille du débarquement. Gabi va se coucher dans l'herbe, Nancy a le torticolis, le chasseur est affamé, la burette coule, enfin tout ce qui
avançait. Oui, c'était une spécialité anglaise de rédiger des messages d'allure humoristique, ce qui garantissait qu'ils ne seraient pas compris du tout par l'ennemi.
Et cela à la veille donc de ce débarquement en Provence qui commence dans la nuit du 14 au 15 août 1944.
Les troupes françaises ont été les premières à débarquer dans le milieu de la France. L'assaut commença à minuit, lorsque les troupes françaises débarquaient dans les villes, s'emparèrent des batteries allemandes flanquant les places. Ces débarquements, opérés de longues heures avant l'assaut principal, ont ouvert la voie au succès ultérieur. Dans une île, les Français ont capturé 250 Allemands, ayant eu eux-mêmes deux blessés. Il n'y a pas encore la moindre indication du point où le commandement allemand a l'intention de lancer dans la bataille les forces réduites dont il dispose dans le sud de la France.
C'était Jacques Duchesne au micro de la BBC en août 44. C'est vrai, François Broche, que les premiers, tout premiers à débarquer, parce que c'est une opération combinée, hein, essentiellement franco-américaine, mais ce sont les Français.
Franco-anglo-américaine, oui. Mais ce sont les Français. À vrai dire, le gros des forces françaises va débarquer le 16 août, le lendemain. Mais les premiers éléments qui débarquent à l'aube, dans la nuit du 14 au 15 août, ce sont les commandos d'Afrique, du lieutenant-colonel Bouvet, et un détachement de commando naval.
Aux deux extrémités d'ailleurs de ce front, de 70
voilà,
kilomètres.
Sous la direction du capitaine de frégate Serio, voilà, et qui s'installe les premiers, qui neutralise les batteries côtières, qui occupe le terrain et qui ouvre la voie aux troupes alliées. Alors en effet, il est contrairement alors, en Normandie, vous me direz aussi qu'en Normandie, les premiers commandos SAS ont débarqué en Bretagne. Le commando Kieffer a débarqué également à Ouistreham. Il y a eu des opérations annonciatrices du reste.
En tout cas, ces Français étaient évidemment particulièrement émus. On sans doute écouté le témoignage de quelques-uns d'entre eux. La revue de texte, Stéphanie Lenkan.
Oui, à la veille du débarquement, l'émotion est à son comble dans l'armée de Delattre, quand s'approche donc le moment tant attendu de revoir la France et de la libérer. Sur tous les bateaux, la joie est la même, raconte le maréchal Delattre de Tassigny. Tous regardent avec la même avidité l'horizon afin d'apercevoir cette France pour l'amour de laquelle ils ont porté sous tant de cieux la croix de Lorraine. Alors parmi ces hommes, assez étonnant, Raoul Salan, qui plus tard s'illustrera en Indochine et en Algérie, il est surtout connu pour son rôle dans le putsch d'Alger et comme étant le chef de l'OAS. Alors, pour l'instant, donc, il s'apprête à débarquer en France avec Delattre. Vers 15h, dit-il, les côtes de France se profilent à l'horizon. C'est une explosion de joie, de cris, d'entrechats. Les hommes s'étreignent. Tout à coup, un grand silence se fait. Une émotion intense nous saisit. Un chant s'est élevé. Nous rentrerons tous en France, chante-t-il. Retrouver nos parents, nos amours, c'est notre chère espérance. Te revoir un beau jour. Alors c'est donc que le 16 août que les Français débarquent, les Américains à bord les laissent passer les premiers. Quand nous atteignons la grève, raconte l'amiral américain Hewitt, le général Patch et moi-même, nous nous effaçons pour permettre à l'amiral Lemonnier de toucher le premier le sol natal. Je crois que je n'ai jamais vu un homme aussi heureux. Dans la baie de Cavalaire, un autre témoin décrit les soldats français. Massé, dit-il, à l'avant du navire, halluciné par la plage, ils sautent d'un seul bond, se baissent, ramassent une poignée de sable et gambadent comme des fous jusqu'au premier pin, puis s'étreignent comme des frères après une longue absence. Alors Delattre aussi est ému. Dans la splendeur lumineuse de cette soirée d'été provençale, dit-il, avide, les yeux embués, le cœur étreint, tous regardent la terre qui leur apporte le premier sourire de la France retrouvée. Dans le lointain, on aperçoit la forêt des morts qui brûle. Soudain, quelques avions allemands apparaissent, lancent au hasard bombes et grenades. Sur le sable gisent 80 tués et blessés. Un instant troublé, le débarquement reprend, actif et rapide. En Delattre sait en effet que la reconquête de la France ne sera pas facile. La veille, dans un discours, il a mis en garde ses hommes contre une trop grande confiance en eux-mêmes. N'oubliez pas, dit-il, que les Français restés en France ont souffert eux aussi. Sachez ne pas leur en imposer par votre gloire. Surtout, ajoute Delattre, vous trouverez devant vous, à côté de vous, ceux des forces françaises de l'intérieur, la résistance. Gardez-vous de sous-estimer leur peine. Plus tard, venus dans la lutte, leur rôle n'en est pas moins décisif. Vous êtes soldats de la même cause.
Et émouvant ces témoignages du débarquement.
J'ajouterai, François Broche. Parmi les légionnaires, c'est un souvenir que me rapportait le général Simon, qui est récemment disparu, qui était dans la 13e demi-brigade de Légion. Et lorsque les légionnaires ont débarqué à leur tour au soir du 16 août, ils ont chanté, bien sûr, la Marseillaise. J'imagine que beaucoup ont dû chanter la Marseillaise. Mais aussi, plus bizarrement, Maréchal, nous voilà. Ils l'ont chanté au deuxième degré, naturellement.
Il faut rappeler, François Broche, que le général Delattre, qui les commande tous, est lui-même un rallié de Gaulle, à De Gaulle, très tard. Il est resté en France jusqu'en 1942, jusqu'à l'invasion de la zone sud.
Le général Delattre, il commandait une division d'infanterie en 1940. Il a choisi, contrairement à De Gaulle, qu'il connaissait. Il se connaissait bien. Il se connaissait depuis 10 ans avant-guerre. De Gaulle avait été le voir lorsque Delattre commandait sa division pendant la campagne de France. Il se connaissait, il s'estimait. Simplement, comme beaucoup d'officiers de cette époque, ils ont choisi deux voies différentes. De Gaulle est parti, Delattre est resté. Il a été nommé chef de la région militaire de Clermont-Ferrand. En revanche, s'il a choisi de rester fidèle au régime, pensant que c'était la meilleure façon de préparer la revanche, la rentrée de la France dans la guerre, bien entendu, il n'est pas resté fidèle au régime pour collaborer avec l'occupant. S'il a choisi de rester fidèle, il a refusé de siéger parmi le tribunal militaire qui a condamné De Gaulle à mort au début d'août, comme il aurait dû le faire, étant donné qu'il était chef de la région militaire Clermont-Ferrand. Il a été nommé ensuite à Montpellier. Il a été nommé auparavant, pendant quelques mois, commandant des troupes de Tunisie, pendant un bref intervalle. Puis il est revenu à Montpellier Et en novembre 42, là, il a choisi la rébellion, il n'a pas accepté l'occupation, et donc il a été emprisonné, enfin, je ne sais pas s'il faut refaire la biographie de là, il est passé ensuite, il s'est évadé de sa prison, il a été condamné à 10 ans de prison, et il est passé en Afrique du Nord.
Et on le retrouve donc à la tête des troupes qui débarquent en Normandie, enfin, sous les ordres du général américain Patch, on le retrouve en Provence, et on retrouve aussi Jacques Duchesne au micro de la BBC le 17 août 1944, deux jours après les premiers débarquements.
La destruction de Provence s'accroît rapidement à l'intérieur des terres et s'élargit aussi sur ses flancs, en particulier à l'ouest et à l'ouest se trouve Toulon. Toulon, un grand port dont la possession résoudrait tous les problèmes d'approvisionnement. Tandis que nous avançons, les zones libérées que nous laissons derrière nous sont bouillantes d'une vie nouvelle. Pour les habitants, le contraste entre aujourd'hui et il y a deux jours est stupéfiant. Avant de pouvoir se rendre compte de ce qui se passait, les Français ont vu arriver les Alliés, débarquant par milliers. Alors, l'excitation qui pendant 4 ans avait dû se contenir a éclaté.
C'est nous les Africains qui revenons de loin. Nous venons des colonies pour défendre le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis. Et nous avons au cœur une invincible ardeur car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, puis à ses pieds, battre des tambours, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir bien loin, près de les Africains. Nous étions au fond de l'Afrique, en bénissant nos trois couleurs, nos trois couleurs, et sous un soleil magnifique, retentissait ce chant vainqueur, en criant, en chantant, en amant. Et nous les Africains qui revenons de loin, nous venons des colonies pour défendre le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis, et nous avons au cœur une invincible ardeur car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds,
oui, à ses pieds,
à ses tambours,
à ses tambours,
à nos amours,
à nos amours,
pour le pays, pour la patrie, mourir bien loin, c'est nous les Africains.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui le débarquement de Provence.
Mais c'était chanté par Bordas, Les Africains, une chanson que l'on entendra d'ailleurs longtemps après, pendant la guerre d'Algérie, ce sera la chanson des partisans de l'Algérie française. Mais en 44, c'était celle des pieds noirs, des tabors et des tirailleurs marocains et algériens de l'armée d'Afrique, qui donc, à peine avoir débarqué en Provence, on l'a entendu, François Broche, ont deux objectifs principaux, les deux plus importants, Toulon et Marseille.
Oui, ce sont deux objectifs qui avaient été fixés par le commandement allié dans la préparation de l'opération. Et le commandement avait prévu que Toulon serait pris 20 jours après le débarquement et Marseille 40 jours après le débarquement. Il est évident que Delattre réussissant, commençant à débarquer son armée, l'armée B, l'armée Delattre, qui deviendra la première armée qui comprenait 250 000 hommes, disposant tout de suite dans les 24 heures de 30 000 hommes, ne va pas attendre les 20 jours qui étaient requis par le commandant allié en vertu d'un principe qui lui était cher selon lequel la vitesse primait la force. Et ce sera le maître mot de la campagne de Delattre. Il va lancer les troupes dont il dispose à l'assaut de Toulon d'abord, qui va être prise le 23 août, soit 8 jours après à peine, au lieu de 20, prévu par le commandement, et puis de Marseille le 29 août, soit 14 jours au lieu de 40.
À Marseille, je crois que c'est déjà un Mont-Sabert, surtout qui a joué un grand rôle. Il ne s'agissait pas seulement, François Broche, de libérer deux villes françaises. C'était deux ports, c'est-à-dire deux ports par lesquels on pouvait, plus facilement qu'en Normandie, acheminer du matériel. C'est pour ça qu'on les a visés.
Ce qui explique d'ailleurs que au moment de définir la stratégie alliée, parce qu'il y a deux visions s'opposaient, soit débarquer en Provence, soit depuis l'Italie, filer directement vers l'Europe centrale, vers l'Autriche. Et les Américains ont été totalement hostiles pour la raison que vous venez de dire, parce qu'il fallait absolument des bases d'approvisionnement pour acheminer le matériel d'Afrique du Nord et d'Italie. Et le général de Gaulle était lui aussi hostile pour cette raison-là, mais surtout parce qu'il voulait absolument le plus vite possible une armée française sur le sol de France. Donc cette stratégie avait toutes les chances de l'emporter, contrairement à celle préconisée par Juin qui voulait filer vers le vers l'Europe centrale.
Et malgré une défense allemande qui est importante, on n'en a pas parlé. Bon, il est évident que le gros des forces allemandes se trouve, a été concentré dans le nord après le débarquement en Normandie.
Oui, mais
il y avait toute une armée dans le sud, je crois qu'il y avait 11 divisions.
Il y avait toute une armée dirigée par le général Wiese, qui était un grand général allemand, qu'on retrouvera ensuite dans les Vosges, et qui assurait une très bonne protection côtière depuis Perpignan jusqu'à la frontière italienne. Il y avait ce qu'on appelait un sud-val, un mur du sud, qui comportait des ouvrages, des batteries côtières, des champs de mines, qui étaient très efficaces. Et les combats ont été très durs. Bien sûr, les troupes allemandes étaient un peu démoralisées par ce qui s'était passé en Normandie et puis par la progression des troupes alliées qu'elles n'arrivaient pas à endiguer. Mais néanmoins, elles ont reçu des ordres très stricts de résister et ces ordres ont été exécutés. En témoigne le bilan très lourd, très élevé de ce débarquement de Provence.
Et puis pour prendre Toulon, 2700 morts dans l'armée de
2700 de morts. Oui, alors Toulon a été prise, oui, essentiellement par Montsabert, qui était un des généraux...
Marseille, vous voulez dire
Marseille, oui. Un des généraux de l'Âtre. Et le rôle de la résistance locale a été extrêmement actif, pas seulement par des renseignements, mais par l'appoint en hommes, en armes et en valeurs combatives.
Toulon et Marseille donc tombent de très peu de temps après le débarquement en Provence. Oui. Deux victoires annoncées à la radio d'Alger par le ministre de la guerre du général de Gaulle, André Dietel.
Les divisions formées en Afrique du Nord et les forces françaises de l'intérieur ont rivalisé de courage et d'initiative autour des rudes combats qui se sont déroulés autour de Toulon et de Marseille. Alors que le haut commandement prévoyait plus d'un mois d'opération pour prendre ces véritables places fortes, 13 jours ont suffi pour les investir et pour les occuper. Nos troupes ont capturé autour de ces opérations 35 000 Allemands, un immense matériel, et ont sauvé de la destruction des installations portuaires de Marseille. Ainsi, l'armée française, reconstituée par le général de Gaulle dès le 18 juin 1940, est formée d'abord d'une poignée d'hommes, en maintenant dans ses rangs tous les fils de la France libérée. Elle a retrouvé le chemin de la victoire.
André Dietel, le 6 septembre 1944, quelques jours après la libération de Toulon et de Marseille. Beaucoup de fierté, hein, d'orgueil dans les propos de Dietel, qui était ministre de la guerre.
C'est le couronnement d'un grand œuvre, enfin, d'une énorme entreprise. De Gaulle était parti de zéro. Il avait peu à peu rassemblé autour de lui toutes les forces qui s'étaient dressées au fil des années contre l'Allemagne. Il avait réussi à rallier à lui des hommes et des forces qui étaient longtemps restées fidèles au gouvernement de Vichy. Il y avait là le couronnement d'une politique, d'une volonté. Il y avait de quoi être fier, oui.
Et puis pour les alliés, il faut rappeler quand même que ces deux ports vont permettre, je crois que Marseille a reçu ensuite quotidiennement 18 000 tonnes de matériel, donc c'est énorme, tout ça va remonter le long du Rhône, et puis surtout c'est l'armée de l'Âtre qui, avec les Américains qui eux passent par la route Napoléon, vont remonter vers le nord, François Broche.
Voilà, suivre la vallée du Rhône. Je parlais des délais qui étaient fixés par le commandement tout à l'heure. Le commandement allié avait prévu que Lyon serait atteinte 64 jours après le débarquement, et elle fut atteinte le 3 septembre, c'est-à-dire 19 jours après le débarquement. Oui. Ça a été une véritable chevauchée irrésistible. Évidemment, les forces allemandes qui avaient résisté durant quelques jours étaient en pleine retraite, mais néanmoins... elle retraitait tout en se battant, tout en continuant d'opposer une résistance. Et il fallait prendre chaque ville, il fallait tous les jours livrer des combats, avec heureusement, fort heureusement, le soutien des FFI, des maquis et des FFI locaux.
Et les Américains qui sont à tout à fait à l'est, ils longent donc la route Napoléon.
Voilà, les Américains passent par les Alpes et vont libérer Grenoble, toujours avec le soutien des FFI, et notamment, puisque nous sommes à Grenoble, des anciens membres du maquis du Vercors qui avaient été dirigés, commandés par le général Huet, dont l'idée était que le maquis du Vercors et la résistance en Savoie et alpine était destinée à venir au secours des troupes alliées débarquées, à renforcer les troupes alliées débarquées. Malheureusement, le soulèvement de ces maquis a été un peu prématuré.
Alors pendant ce temps-là, il faut rappeler que les Allemands évacuent tout le sud-ouest et l'ouest de la France, ils vont laisser quand même quelques poches qui vont rester jusqu'à l'extrémité de la guerre pendant un an encore, à Saint-Nazaire, à Royan, à La Rochelle, à Lorient.
Les poches d'Atlantique vont rester jusqu'en mai 45 oui. et opposer point. Une résistance farouche alors même que le combat est perdu. Mmh. Il est inéluctablement perdu. Ce qui n'empêche pas du tout, c'est la mentalité allemande typique. La bataille de l'Atlantique a été également a duré jusqu'à la fin de la guerre alors même qu'elle était perdue. Mais les Allemands ont continué de se battre.
Et la première armée française, c'est comme ça qu'on va l'appeler, je crois, à partir du mois de septembre, François Broche, c'est-à-dire l'armée de Delattre, qui était l'armée B ou l'armée d'Afrique, devient la première armée française qui pourchasse ces Allemands, qui va d'abord faire établir le contact avec l'armée venue de Normandie.
Oui, alors le 12 septembre se déroule un événement très important, symbolique, pas seulement symbolique, mais un événement important, c'est la jonction entre les troupes venues de Normandie et les troupes venues de Provence. Mmh. Et qui va effectivement permettre à ce moment-là à Delattre de faire... Delattre avait l'idée de transformer son armée en armée de la France. Finalement, ce sera la première armée française.
Mmh. Et il va comme ça aller jusqu'en Autriche. C'est Delattre lui-même qui va signer pour la France la capitulation allemande en mai 45. Enfin bref, tout ça grâce à ce débarquement en Provence et puis bien sûr au débarquement en Normandie. Merci en tout cas, François Broche nous a rappelé ce débarquement en Provence que l'on retrouve aussi dans votre livre « L'armée française sous l'occupation » dont le troisième volume vient de sortir aux presses de la Cité et qui consacre justement un chapitre au débarquement en Provence. Je signale que ce livre a obtenu le prix Edmond Fréville 2003 de l'Académie des sciences morales et politiques. Bravo François Broche. Vous êtes également, je le rappelle aussi, l'auteur d'un album événement magnifiquement illustré sur Bir Hakeim, intitulé justement Bir Hakeim, juin 42, la France renaissante, préfacé par Pierre Messner, qui est un ancien de Bir Hakeim, et publié aux éditions Italiques. À lire également sur le sujet, Le débarquement en Provence, un livre de Philippe Lamarck, édité au Cherche Midi. Vous pouvez, vous le savez, retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Alain Darrigade et Olivier Leroux, documentation et archivina Virginie Bloch-Lenné, Claire Tesser et Sandra Escamez, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
L'émission de Patrice Gélinet.